Nous vous proposons maintenant une interview du docteur Jacques Labesca.
Eh bien, bonjour Nathalie.
Bonjour Jacques.
Bon, alors je vous demande pas évidemment quel temps il fait en Bretagne. Il fait toujours beau entre deux averses. C'est bien connu.
Il fait super beau.
Il fait super beau. Évidemment, et l'eau est à 28, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui Nathalie, justement, nous avons décidé de ne pas avoir de pensée négative. Donc nous allons dire, la Bretagne va être envahie cet été par les touristes. Quoique c'est peut-être une pensée négative ça. Alors, il paraît que c'est pas très bon les pensées négatives.
Ben non, et puis on sort d'un épisode où justement on a été envahi par les mauvaises nouvelles. On nous a même dit qu'on pourrait pas aller peut-être en Bretagne pour ceux qui n'étaient pas sur place, avec l'histoire des 100 km. Bref, toutes ces histoires un petit peu anxieuses, ces informations négatives font que certaines personnes, ils sont plus sensibles que d'autres, et notamment il y a des gens qui les ressassent, qui ressassent dans leur journée tout ce qui leur est arrivé de négatif. Et alors pour eux, ben, j'ai pas une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une étude très intéressante qui montre que plus on ressasse de pensées négatives, hein, plus elles reviennent, et plus on augmente nos risques de maladie d'Alzheimer. Donc c'est quand même pas rien. Et pour arriver à ces conclusions, quand même, les chercheurs ont fait répondre à des gens, à près de 300 personnes, hein, ils leur ont demandé de répondre à des questionnaires très réguliers pendant 2 ans. Et pour certains d'entre eux, ils ont même été regarder ce qui se passait au niveau imagerie cérébrale pour voir s'il y avait plus de protéines, de dépôts de protéines tôt et amyloïdes. Vous savez, ces dépôts de protéines qui ne sont pas normaux et qui font lit de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est quand même une étude assez poussée. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ben, qu'en fait, au bout de 4 ans, effectivement, les personnes qui avaient le plus de pensées négatives étaient celles qui étaient le plus censées développer de maladies d'Alzheimer. Alors, quand même, comme on va pas finir sur un point complètement négatif, l'étude, elle s'arrête pas là. C'est-à-dire que les chercheurs ont décidé de voir si, à l'inverse, quand on faisait pratiquer des exercices comme la méditation, ou tout ce qui pouvait aider ces personnes qui ressasser des pensées négatives à aller mieux, à être moins anxieuses, est-ce que ça pouvait rompre ce cercle vicieux et les empêcher d'avoir la maladie d'Alzheimer? Alors ça, j'ai pas la réponse aujourd'hui. Hein. La suite de l'étude ne fait que démarrer. Mais on en reparlera un petit peu plus tard en espérant que ce sera une réponse positive cette fois.
Bon, bah alors on oublie les pensées négatives, c'était facile par rapport à Alzheimer. Bon, on va rester dans la pensée positive, alors tout ce qui est effectivement exercice de respiration, yoga, mindfulness, enfin, tout ce qui fait que, eh bien, on voit tout en rose quand tout est pas rose, enfin bon. Merci Nathalie, alors j'allais dire ça s'arrose. Non, on peut pas l'arroser ça en plus.
Ben non, parce que l'alcool, en plus, c'est un anxiolytique extrêmement puissant, mais lors des journées de la Société française d'alcoolologie qui ont eu lieu en mars, ils ont dit que c'était aussi le pire anxiolytique. Pourquoi? Parce que l'alcool, quand il a ses effets dissipés, ben, il aggrave l'anxiété, il entraîne une dépression et multiplie par jusqu'à 10 le risque de suicide. Alors, avec tout ça, pourquoi des gens sombres dans l'alcool, eh ben, on pense souvent que c'est l'alcool qui fait que les gens continuent à boire, etc. Et lors de ces journées, la Société française d'alcoolologie nous dit attention, parmi les personnes qui boivent beaucoup trop, il y en aurait 1 sur 2 qui aurait en fait une pathologie psychiatrique à la base et qui n'a pas été vue, donc pas traitée. Et c'est peut-être pour ça, pour essayer d'aller mieux, qu'ils trouvent ce substitut. Qui est l'alcool. Donc en fait, quand on a un proche qui boit beaucoup trop, il ne s'agit pas de juste lui dire « Écoute, tu as un problème avec l'alcool », il faut vraiment l'encourager à consulter, parce que derrière, alors on trouve par exemple un syndrome de stress post-traumatique qui n'a pas été traité. Ça peut être lié à des antécédents de violence dans l'enfance ou un traumatisme professionnel, par exemple, je pense aux militaires à l'âge adulte ou autre chose, mais il peut y avoir aussi des troubles de la personnalité. En fait, l'alcool agit comme quelque chose qui viendrait masquer ces troubles et pour son effet anxiolytique immédiat, il donne l'impression d'aller mieux et en fait, ça va pas mieux du tout. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué, les gens qui boivent, peut-être ont des raisons d'en arriver là et il faut les aider.
Donc, on oublie les pensées négatives, on oublie l'alcool, parce que finalement, si on se met à boire, c'est effectivement l'effet drogue, c'est-à-dire qu'on se met pas à boire par hasard, quoi. On se met à boire.
Une fois sur deux, au moins.
Voilà, on se met à boire pour solutionner un problème, et en fait, on le solutionne pas du tout, on l'aggrave. Donc,
exactement.
Effectivement, mais ne pas oublier la partie cachée de l'iceberg, et de se dire, bah, si on s'est mis à boire, c'est pas que génétique, parce qu'il y a une partie génétique, évidemment, mais c'est pas que génétique, c'est peut-être parce qu'on a une forme d'anxiété latente ou de syndrome post-traumatique ou de dépression latente et on recherche dans l'alcool une fausse bonne réponse. Bon alors, et si, on n'a pas, vous n'avez pas, Nathalie, quelque chose d'un peu plus gai que la drogue, les pensées négatives, et si on se mettait au sport, si on se mettait au sport, le sport, c'est une bonne drogue.
Mais alors, il vaut peut-être mieux jouer en simple qu'en double, parce que figurez-vous, Jacques, qu'en double, il y a beaucoup d'accidents de volant et surtout de raquettes et qui entraînent des traumatismes oculaires parfois graves. Alors pourquoi, comment on peut avoir un accident de raquette? Tout simplement parce que les deux joueurs, les deux partenaires montent en même temps pour récupérer le volant. Il y en a un qui donne un coup et c'est l'autre qui le prend dans l'œil. Et alors, on va dire que le volant, il est responsable à peu près des traumatismes oculaires dans deux tiers des cas, donc la raquette dans un tiers, mais quand c'est la raquette, c'est beaucoup plus grave et ça peut même aller jusqu'à la rupture du globe oculaire. Il y a une étude qui a montré que des fois, ça aboutit à une perte de vision ou un glaucome secondaire, une subluxation du cristallin, voire un décollement de la rétine, donc c'est quand même pas rien. Donc qu'est-ce qu'on fait pour éviter d'en arriver là? Les auteurs de l'étude disent carrément, si vous voyez bien que d'un œil et que l'autre n'est pas bon, carrément vous oubliez le badminton en double parce qu'il y a trop de risques pour le seul œil qui voit bien. Et pour les autres, quand vous avez quand même une bonne vue des deux yeux, vous vous protégez. Alors je vais pas dire d'aller jusqu'au casque moto, mais il doit certainement y avoir des masques un peu protecteurs. Donc ça c'est à voir avec l'opticien pour jouer en toute tranquillité et puis pris dans le jeu, peut-être se donner des règles entre les deux partenaires, mais ça c'est un peu plus difficile de pas essayer d'attraper les deux en même temps le volant.
Et les lunettes de sport peut-être éventuellement?
Il doit y avoir des lunettes suffisamment rigides ou suffisamment courantes, je sais pas comment ça marche pour mais ça faut se rapprocher de son opticien. En tout cas, il faut y penser parce que c'est pas très connu.
Voilà, de la même façon que quand on a des problèmes oculaires, on ne fait pas de boxe. Parce que la boxe, comme tous les sports de combat, risque de faire des traumatismes oculaires. Et la myopie, par exemple, est une contre-indication à la boxe.
Oui, mais alors la boxe, tu t'attends à ce que l'adversaire t'en mette une. Mais au badminton, tu t'attends pas à ce que ton partenaire te foute la raquette dans la tête.
Nathalie a des drôles de versions sur le badminton. Et je pense que du fond de sa Bretagne, elle va nous inventer bientôt la raquette en mousse. Comme ça ne posera pas de problème. Donc, écoutez, vous suivez sur les réseaux sociaux Nathalie Shapiro et vous voyez si une raquette en mousse a été inventée, c'est elle qui l'a créée au fin fond de sa Bretagne.
Voilà. En même temps, tu risques pas de me trouver sur les réseaux sociaux parce que je suis pas très...
Eh bien voilà, on va pas non plus trouver Nathalie. Eh bien écoutez, merci en tout cas de nous réserver vos interventions sur Radio IDFM Anguin ou sur Radio Éthique, enfin sur toutes nos radios où nous passons les bons conseils de Nathalie et peut-être à bientôt pour quelque chose un peu plus fun après les vacances.